bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadeau-Boudali.
Bonjour à tous.
Agnès.
Bonjour. Estelle,
bonjour Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Albert Agnès.
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Pastureau.
Salut.
Et nos invités.
Ah oui.
Charlier Camion.
Bonjour. Bonjour, Nagui, bonjour. J'ai un petit problème aujourd'hui, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, on va parler avec Anne Charrier.
Bonjour.
Oh, c'est
bonjour.
Beaucoup plus intéressant. Hein.
Bonjour tout le monde, je suis désolé, mais...
Bon, déjà, avant de dire quoi que ce soit sur Just Gigolo, chère Anne, félicitations pour les nominations.
Oh, merci infiniment.
Le canard à l'orange, combien vous avez? 5, 6?
7.
7 nominations.
C'est pas pour la ramener, hein, mais faut qu'on soit précis.
Non, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que vous êtes tous nommés.
On est toute la distribution
c'est
est nommée.
Génial.
Et ça, c'est très
c'est
unique.
Très rare.
Et c'est très rare. Ouais. Et du coup, voilà, ça ajoute doublement à notre.
Alors, pardon, est-ce que
joie.
C'est pas. C'est, est-ce que ça ne va pas diviser le nombre de votes? Parce que le fait que les 7 soient là, peut-être que ceux qui ont aimé le canard orange vont
alors
se
moi,
répartir.
Moi, je suis une très mauvaise stratège de vote. Déjà, mais parce que une fois qu'on est dans la course, je m'en fous un peu. C'est pas, je vais pas.
C'est d'y être.
Être reconnu
donc
par
vous
ses
êtes,
pairs.
Vous
être,
êtes de la vieille, voilà, ça, vous êtes de la vieille école, l'important c'est participer. Maintenant on est la génération des champs, l'important c'est de gagner, il faut arrêter de participer.
Oui. Non, mais moi jusqu'au bout je serai persuadée que je vais gagner.
Ah, bah voilà.
Voilà. Et puis après, bon, bah, on verra bien.
Surtout que tu as déjà été nommée, pardon, l'année dernière. Et que...
En attendant, bon, Jungle.
Et que tu ne l'as pas eu et qu'elle le mérite vraiment.
Ouais, elle était formidable. Cette pièce était formidable, tu as raison de le dire.
C'est une grande actrice.
Je ne suis pas certaine que ce soit une méritocratie, mais. Ce genre de nomination, ouais. Mais ça n'a pas d'importance en fait. Voilà, la joie, elle est. La joie n'en est pas diminuée.
Moi, c'est trop fort, là.
Je ne boude pas mon plaisir. Voilà, c'est ça.
Bah, bien.
Bravo,
nous non plus.
On la félicite.
On est fiers. Cad et Anne réunis donc pour Just Gigolo.
Moi, j'ai ma deuxième étoile cet hiver, donc voilà, je suis content, donc c'est pas mal.
C'était inespéré, hein.
Ouais.
On n'y croyait pas.
D'accord. Oui, oui.
Just Gigolo, le nouveau film d'Olivier Barou.
Oui,
je ne sais pas, c'est un remake alors d'un film américain.
C'est un remake, oui, c'est un remake qui s'appelle How to be a Latin Lover, pardon.
Ouais.
Film américain que j'ai vu d'abord, en premier, que le producteur m'a envoyé.
Avec Salma Hayek
et alors cet acteur mexicain, j'oublie toujours le nom, qui est une immense star au Mexique. C'était un grand succès aux
Carlos
États-Unis.
Carlos Santana.
Non.
Okay. Van de musicien.
Oui,
c'est le seul Mexicain connu que j'ai.
Quelqu'un pourra regarder. Je devrais noter son nom parce que je me suis très inspiré de l'acteur mexicain qui joue le rôle
d'accord.
principal.
Okay.
Et c'est moi qui ai envoyé à Olivier le remake en lui disant qu'est-ce que t'en penses. Et j'ai parlé au producteur en lui disant je veux jouer ce film, mais je voudrais que ça soit Olivier qui le réalise. Voilà.
D'accord.
Donc pour une fois, c'est moi qui ai choisi Olivier.
Parce que normalement, c'est Olivier qui vous choisit.
En général, Olivier propose un scénario et me demande si je veux bien jouer, par exemple, aussi. Voilà. Et là, c'est moi qui ai proposé Olivier, que j'ai imposé même, on peut dire.
Est-ce que
je trouve que c'est une bonne idée.
Eugénio Derbez.
C'est ça. Merci Nagui. Eugénio Derbez.
Merci la régie surtout.
Merci la régie.
Très bien.
Eugénio Derbez. Je vais le noter parce qu'on m'en parle souvent. Et...
Comment vivre heureux, riche, sans travailler, être gigolo.
Bah, dis-nous Nagui.
Vous le saurez dans quelques instants, c'est pas un bon teasing ça.
Wow.
Just Gigolo, en tout cas un film extrêmement drôle. On a
merci
eu la chance
ah
de
ouais,
voir.
C'est génial.
Ouais.
Il y a des blagues de potache, mais on se dit, allez, c'est pas grave, on rit tellement c'est drôle
ça
quoi. On n'est pas dans le jugement avec. Est-ce qu'on peut rire de ça?
C'est très amoral hein, comme.
Totalement. Vous avez dû faire
très
un effort
très printanier.
Physique, vous avez pris combien de kilos pour faire ce film?
65.
Mais alors que dans les seins alors apparemment.
Non, j'ai pris 10 kilos pour le rôle, surtout pour la scène de la piscine en fait, pour les scènes où je suis un peu
en maillot.
Oui.
Oh, c'était une grosse préparation.
Comme je suis,
ça mérite un Molière.
Et que je viens de dire du bien de toi, tellement je t'aime.
Mais j'ai pas dit de mal de toi, j'ai dit ça demande une grosse préparation de se gaver juste avant une scène. C'est quand même quelque chose.
Avec ce petit slip jaune, quand même, c'est vrai que.
Leïla me connaît, elle sait, je suis super bien foutu.
C'est vrai, il est gaulé, mais comme jamais.
Moi, je te connais, je sais que t'es foutu.
Bon, je sais. Putain, aujourd'hui, les gars, on va écrire un spectacle. Nagui, pensez. Si, attends, je commence à noter les
vannes. On va d'abord le copier.
Non, mais Cad, il est gaulé.
Non, je suis gaulé. Disons que je fais attention quand même. Je fais attention. comme
une prestance.
Comme, voilà, on essaye quand même. Donc là Olivier me dit, mais écoute, il me met en maillot de bain pour voir. Il me dit, oh non, c'est pas possible, t'es trop super bien foutu.
Les vannes commençaient déjà.
Non, et puis pour faire rapide, et c'est vrai qu'il fallait qu'il soit, qu'il pense qu'il a toujours un corps de 25 ans, mais qu'il ait quand même ce corps de 50 ans.
On va préciser, je crois que c'est dans la bande-annonce cette image, ouais, qu'il fait du sport sur un tapis de marche, mais il est lui-même sur un overboard, sur un skate électrique. C'est ça son sport, quoi.
Oui, voilà, puis il a oublié. Attendez, parce que c'est un gigolo qui est fidèle, c'est-à-dire il est avec la même femme depuis 30 ans.
C'est ça, et c'est un vieux beau.
Voilà, c'est un vieux beau, et puis donc il fallait qu'il y ait un côté un peu grassouillet, quoi.
Un peu confortable.
D'abord, tous les hommes seront contents, enfin, on assume ces rondeurs, ces brioches qu'on a
mais
tous.
Mais il se fait plaquer.
Oui, il se fait plaquer.
Et c'est là où
pour un plus jeune.
C'est là où tout bascule.
Et plus attentif aussi.
Par une femme de 90 ans, quand même, il se fait plaquer.
Et vous, Anne Charrier, vous êtes sa sœur, celle qui l'a totalement oublié, quoi, délaissé pendant des années, puis comme par hasard, au moment où il est dans la galère, dans la mouise, il vient vous voir.
Voilà, et en plus, il y a une promesse d'adolescent où il dit « je prendrai soin de vous ». Et finalement, elle, veuve, mère célibataire, élevant son enfant, enfin essayant de... Voilà, voir arriver ce loukoum, parce que c'est un loukoum.
Oh là là.
C'est ça, il est confit.
Loukoum.
Il est confit.
Loukoum confit.
C'est vraiment le
loukoumérade, tu vois, c'est mon chanon, ça.
Il est nappé, il est un peu nappé.
Oui, il est un peu nappé, et puis il arrive alors...
Mes parents écoutent, mon père écoute.
Bonjour, monsieur Mérade.
Ah, bien sûr. Et donc
non, mais non, c'est monsieur loukoum, maintenant tu l'as baptisé.
Et elle le voit arriver, et ils n'ont plus du tout les mêmes rapports à la vie. Ils n'ont plus aucune... Même leurs références communes sont...
Non, puis elle est maman et elle a peur aussi de l'influence de ce tonton sur les enfants.
Oui, alors ça, je pense qu'elle... Je ne sais pas si elle a vraiment peur. Je pense qu'elle se dit qu'elle aura toujours la main sur l'éducation de son fils. C'est plus qu'elle réalise à un moment donné qu'il lui dit des choses absurdes et complètement... il lui fait un livre avec les indications pour draguer une fille.
À son neveu.
À son neveu et... Et voilà, ça va avec le personnage, c'est inepte.
On va en parler dans quelques instants. En tout cas, c'est ce mercredi au cinéma. Demain. Oui. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger.
Demain, tu dis ce mercredi.
J'ai rajouté demain, oui. Question concernant nos invités pour savoir si vous avez préparé, travaillé cette émission. Anne, Cad, vous ne dites rien. Comment a réagi l'une des tantes d'Anne Charrier lorsqu'elle lui a annoncé, avoué qu'elle voulait être comédienne?
Elle a pleuré.
Non.
Elle a hurlé.
Moi, je peux jouer, je ne sais pas.
Elle a ri.
Elle a éclaté de rire.
Ah ouais.
C'est vrai?
C'est vrai, oui. Enfin...
C'est aussi violent que de pleurer, j'ai l'impression, non?
C'était en même temps, ça a été une fin de non-recevoir absolue, parce que je pense que ça s'est fait dans une grande candeur, enfin bien sûr que non.
C'est ça.
Et, et voilà.
Qu'est-ce que tu veux dire, très mal la candeur.
Ah bah les nommer.
Molière.
Elle va l'avoir, sa Molière.
Elle va aussi travailler la candeur, monsieur.
Elle va l'avoir, sa Molière.
Sa Molière, très bien.
Monsieur Loukoum, s'il vous plaît.
C'est toi. Pas encore célèbre, qu'a fait Cad Mérade pour draguer une fille. Il a dû en faire des tonnes, mais...
Il a fait de l'argent.
Non.
Robert De Niro. Cheveux déguisés, dîner de la weed. Qu'est-ce qu'il a fait pour draguer?
Ouais.
Il a fait une roulade.
Il a pris l'avion.
Un truc prémonitoire.
Il l'a emmené à Cannes, il lui a montré un César.
Il a plongé dans ses panagers.
Jaune.
Alors ça peut avoir un rapport avec Cannes.
Avec Cannes,
oui, avec les faces.
Il lui a dit qu'il arrivait d'un festival.
Il a loué un bateau incroyable.
Pas loin.
Ah, il a fait croire que c'était un grand producteur de cinéma.
Mais oui, mais alors donc
il l'a emmené à Cannes. Il lui a fait monter les marches. Il lui a imprimé un faux scénario. En peignoir.
On n'est pas loin. Mais c'est pas ça.
Il y a du vécu.
On peut prendre notre temps. Nagui cherche la réponse quelque part.
Il y a tout qui s'est annulé. J'ai la réponse, mais c'est pas ça.
Il l'a invité au Martinez.
C'est pas loin, mais c'est pas ça.
Non,
attention, j'avais 18 ans.
Peu importe, ne dis rien.
À la plage du Martinez. Il a trouvé une suite. Il a.
Non. Il veut draguer une fille. D'accord. Il n'est pas connu. Qu'est-ce qu'il fait?
Il se fait passer pour quelqu'un d'autre.
Exactement.
Un acteur américain.
Ouais, mais comment?
En imitant.
Faux papier d'identité.
Il prend l'accent anglais, américain.
On n'est pas loin, on est d'accord ou pas? Non, c'était pas américain.
On est pas loin, mais c'est plus fou encore.
Italien, espagnol.
Mes copains m'ont aidé.
Pablo Machione. Il y avait des figurants.
Il y avait des figurants,
mais
pas.
Il met en scène un truc, quoi.
C'est bon, Agnès.
J'ai mis en scène quelque chose.
Il fait venir des potes qui jouent les paparazzi pour faire genre, je suis une vedette.
À l'aéroport.
Génial.
Extraordinaire. T'as fait ça?
C'est un film, ce truc. Ouais. J'ai fait ça.
Et ça a marché ou pas?
Non, parce que.
parce qu'ils n'avaient pas d'appareil photo.
Non, ça n'a pas marché parce qu'elle m'a vu repartir du parking d'Orly avec une Renault 15 pourrie que j'avais piqué à mon père. Ouais. En fait, c'est pas des conneries.
Vous n'avez pas soigné la sortie.
J'étais en vacances en Tunisie, dans un club de vacances. J'étais jeune, voilà, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai fait croire que j'étais quelqu'un de très connu. Et j'avais demandé à mes potes, à l'époque à Ressangis, j'avais une bande de potes, on est bien une dizaine, de venir m'accueillir comme une star.
Génial.
Avec des appareils photo et tout.
À quel aéroport c'était?
À Orly. À l'époque à Orly. Et les gens, même les gens me voyaient. Je traversais le hall un peu comme ça, un peu speed avec mes bagages, avec cette nuée de photographes qui étaient mes copains.
C'est génial.
Et tout le monde dit, c'est qui? C'est un joueur de tennis, c'est un joueur de foot. Alors que j'étais pas connu du tout, forcément. Et c'est fou quand même d'en arriver là. Moi je me dis.
Et qui était cette fille? Parce que pour faire tout ça pour une fille, il faut être fou amoureux d'elle, quoi.
Je me souviens plus très bien. Je crois qu'elle s'appelait Hélène. Elle s'appelait Hélène, il me semble. C'était dans un club de vacances en Tunisie. Voilà, si elle m'écoute.
Hélène, si tu nous entends.
Voilà. Reviens.
Elle a dû penser que j'étais complètement fou.
Mais
quoi.
Le problème, c'est qu'Hélène. Imaginons si ça avait marché. Après, il aurait fallu lui dire.
C'est enfermé dans ce mensonge et tenir après.
Il voulait tenir une soirée.
Un petit quart d'heure.
J'aurais pas tenu longtemps, mais quand j'y pense, je me dis c'est fou quand même. J'avais tellement envie d'être connu, je pense. Je crois qu'il y avait un truc comme ça avec l'idée de la célébrité nous fasciné à l'époque quand on était avec mes copains, nous.
Alors c'est amusant, je pensais que c'était plutôt prêt à tout pour séduire une fille.
Aussi, mais je crois qu'il y avait aussi ce côté de jouer comme ça, tout d'un coup, les gens stars, connus, quoi, des stars. Ben voilà. C'était la télé-réalité avant l'heure. Hein.
Exact.
Les Marseillais contre le reste du monde.
C'est devenir connu alors qu'il n'y a aucune raison de l'être.
Exactement. Ouais, c'est joli, ça.
Qu'est-ce qui a donné envie à Anne Charrier d'être comédienne avant de l'annoncer à sa tante?
Quand elle a vu Cadmérade à Orly.
Non. Catherine Deneuve. La télévision, un rôle.
Quoi,
une série
à la télé, oui, mais quoi?
Belle et Sébastien. Sébastien, un film qu'elle a vu, non? Une interview d'une actrice connue.
Candy.
Pas loin.
Gérard Depardieu. Une actrice
Dorothée.
En particulier.
Hélène
dans un JT.
Pour trouver l'émission.
Daniel Gilbert.
Le Grand Échiquier.
Non, Monsieur Cinéma.
Oui. Non.
Le Grand Échiquier.
Madame Cinéma.
Non,
pas, Mademoiselle Cinéma.
Ciné Club.
Ah, ben la dernière séance.
La séquence du spectateur.
Une émission de théâtre.
Ah, Eddie Mitchell.
Super connu.
Mais non, une émission sur le cinéma super connu.
Oui, on l'a reçu.
Monsieur
ici,
Cinéma.
Avec un.
Le cinéma de minuit.
Il y a un immense monsieur qui nous cinéma a malheureusement quitté.
Tchernia.
Oui.
C'est
quoi Tchernia?
C'était Mardi Cinéma, je sais plus. Enfin, c'est Pierre Tchernia qui vous a donné envie.
C'est Monsieur Cinéma.
Ouais.
Non, c'était Mardi Cinéma, je crois.
C'était quel jour?
C'était une des institutions.
Vérification en régie.
Regardez, on n'avait pas école.
En régie, ça
pardon.
On avait le droit de regarder puisqu'on n'avait pas école le mercredi matin. Et c'était effectivement l'occasion de regarder, de voir du vrai cinéma.
Et la manière dont Pierre Tchernia a parlé du cinéma vous a donné envie.
La passion.
C'est vrai qu'il était.
La passion de cet homme. C'était simple et en même temps c'était évident et c'était quelqu'un qui parlait pas comme il y avait une grandiloquence derrière mais une évidence, quelque chose de qui parlait immédiatement.
Parce qu'à l'époque vous viviez à la campagne, il y avait pas énormément de films, c'était votre seule entre guillemets fenêtre sur le monde du cinéma.
Ah oui,
c'était
oui, c'était
télé.
Vraiment nous on vivait en campagne, c'est-à-dire que la ville était à une demi-heure, donc il fallait pour nos parents nous emmener au cinéma, mais laissez-moi vous dire que ça arrivait très peu. Et ça arrivait, mais c'était une sortie organisée. On n'allait pas au cinéma comme ça sur un coup de tête. Donc ça, c'était les premiers. Mais c'est pareil avec Au Théâtre ce soir.
Ouais.
Par exemple, j'ai mes premiers souvenirs de théâtre avec Au Théâtre ce soir.
Grave, moi aussi.
Mais c'est vrai, moi aussi. C'est vrai qu'il y avait
Michel
des trucs
Roux.
Dingues.
Le Poulain, Jean le Poulain.
Ouais.
Jacques Charon,
Maria Pacôme.
Avec Robert Hirsch.
Maria Pacôme, absolument. Maria Pacôme.
Et puis se dire qu'on assiste à quelque chose d'assez inattendu. Il y a le rideau qui se lève et comme s'ils étaient dans notre salon, en fait.
On était au spectacle.
Ouais. Ouais. C'est assez grand chez toi.
Ouais, c'est vrai, c'était gigantesque.
Si je vous dis Daniel Auteuil, José Garcia, Jean Dujardin, Bernard Campan, ils ont un point commun avec Cadmérade. Lequel?
Mais ils ont refusé le rôle.
Ils ont failli jouer.
Exactement.
Ah bah oui, ça c'est.
Ce sont ceux qui ont refusé.
Qui n'ont pas pu, pour des questions de calendrier aussi. Tous n'ont pas dit non.
D'accord, enfin, qui n'ont pas fait.
Je sais par exemple que Daniel Auteuil, qui était le premier choix de Dany, puisqu'ils étaient très proches, ils sont toujours proches d'ailleurs, Daniel Auteuil avait un problème de calendrier, vraiment.
Pour Bienvenue
chez les Ch'tis.
Ouais, n'a pas dit le film, ouais.
Pardon, ouais.
Voilà, par exemple. Après, il y en a d'autres qui, effectivement, ont refusé.
Avec le recul, Cad, là, vous vous dites quoi? Alignement d'étoiles. Non, une chance dingue. Autant de comédiens, parce que
chance,
Auteuil, ouais. Garcia, Dujardin, Campan, il y a du monde. C'est pas juste Auteuil n'a pas voulu, donc j'ai eu le rôle. C'est que il y en a plein d'autres.
À l'époque, j'étais encore un petit acteur qui venait d'avoir un César quand même de meilleur second rôle, donc je commençais un peu à exister dans ce milieu qui est pas facile, ouais. Vous avez bien compris. Et j'ai senti, enfin, cette circonstance un peu dingue de tous ces refus font que moi je me suis retrouvé là, mais vraiment en dernier, quoi. J'étais le, on peut le dire, le dernier choix presque, enfin, le dernier truc. Mais quand j'ai eu le scénario entre les mains, j'ai dit c'est le scénario que j'attendais, c'est le rôle que j'attendais. Ce que j'avais, c'est exactement ce que je voulais faire à cette époque-là.
Parce qu'il y avait plusieurs humeurs à jouer. Voilà, il y a pas tout que à jouer. La comédie,
il y a tout
ça.
À jouer dans ouais. ce film. Si vous le regardez en tant que professionnel, en tant qu'acteur qui doit lire un rôle,
il y a de la matière.
Et oui, c'est un film d'auteur. J'avais même dit tout de suite à Dany, c'est fou, c'est un film d'auteur en fait. C'est pas une comédie. Il a écrit son histoire, sa vie, et c'était dingue. Et ça m'a plu. Et c'est effectivement un annihilement de planète, une chance. C'est une chance inouïe quand même de rencontrer un film comme ça. On n'en rencontre pas beaucoup dans sa vie, je peux le dire, des rôles
comme
ça.
Non mais d'accord, mais la chance, il faut aussi la saisir. La provoquer, oui. Il faut pas l'insulter et il faut aussi bien travailler et faire le rôle. Non mais il faut pas simplement dire j'ai eu du bol, quoi.
Non. Après, il fallait qu'il y ait. Et entre Dany et moi, ensuite, ça s'est tellement connecté que bon, voilà, c'est un duo formidable en fait. Voilà.
Anne Charrier, pourquoi paraît-il ?
Oui, pourquoi ?
Pourquoi ?
Elle ne serait pas à l'aise maintenant devant ce micro.
Parce qu'elle n'aime pas la promo, parce non. que... Non, pourquoi
elle n'aime pas sa voix.
Elle n'aime pas Nagui.
La radio, elle a une mauvaise expérience à la radio. J'ai pas envie d'en parler.
elle joue très bien les froids aussi. Elle est incroyable. C'est ma préférée.
Quoi, crise d'angoisse à
la radio. Elle est microphone.
Non.
Le micro lui fait peur.
Pourquoi elle serait pas à l'aise là maintenant ?
Parce que le micro est rouge.
Est-ce que c'est tôt ? Elle dort normalement.
Il n'y a pas de fenêtre ici dans
le
la
rouge,
salle.
Le rouge du micro.
Non. Alors ça a rapport avec le micro.
Elle a une mauvaise haleine. Non.
Parce qu'on est filmé maintenant. On est filmé à la radio et ça la gêne.
Non.
Elle est folle.
Non.
Un journaliste de France Inter était très méchant avec elle.
Non.
Bah moi je sais.
À,
je crois
à
que je sais.
Au micro ou au micro en général ?
C'est médical, non ?
Non.
Ah merde.
Ok. Il sait pas.
Je crois que c'est ton problème de.
Non, j'ai pas envie qu'on en parle non plus.
Truc horrible. Alors c'est quoi alors ?
Du nuage.
C'est psychologique ?
C'est psychologique, oui.
Mais tu le sais toi, hein ? T'as pas l'air de le savoir toi-même.
Ben non, j'hésite là, j'ai un petit moment de... Oui.
C'est un rapport avec le nuage de printemps ?
C'est peut-être moi qui aurais le petit moment de solitude quand je vais donner la réponse, mais...
Le trac ?
Alors, c'est pas loin.
La peur de ne pas savoir de dire quelque chose d'intéressant, de pas avoir confiance en soi au micro, tout d'un coup.
La dyslexie, le bégaiement.
Détester prendre la parole en public.
Ah oui, c'est vrai, mais ça va mieux.
Improviser. Bah, tu m'étonnes, ça va mieux. C'est soigné, hein.
Elle est obsolète, cette question. Faut l'arriver.
C'est terminé, en fait.
Elle peut paraître obsolète, sauf que l'interview date de 2018. Vous avez dit, je déteste prendre la parole en public.
C'est quel journal ?
Madame Figaro.
Voilà.
Oui, c'est possible, je l'ai dit. Oui.
Parce que je fais des gaffes. Voilà, je fais improviser, je fais des gaffes énormes.
Énormes.
Et chaque fois, je m'en veux.
Voilà, c'est vrai. Mais après, sur la promo en soi, c'est pas.
Non, c'était pas sur la promo, c'était la prendre la parole en public.
La surprise. Et maintenant, Anne Charrier va vous parler de. Là, vraiment, je suis incapable de prendre la parole. Sans avoir quelque chose, un objectif, un sujet, quelque chose.
C'est marrant, là, on s'en rend déjà beaucoup.
C'est dégueulasse.
J'ai écouté les premières émissions ici.
Mais enfin.
Qui aime bien châtie bien. Et nous, on aime beaucoup. Donc tu vas apprendre.
Calme-toi, Nagui, calme-toi.
Un petit travers de Cadmerade qui ne va pas aller en s'arrangeant.
Ah merde.
Les yeux.
Quoi, les yeux ?
Il ronfle.
Les cheveux, la calvitie.
Alors ça va, les physiques ou moral ?
On parle pas
c'est
de
pas,
ça.
Il a un béret. On a dit pas le physique et pas les nerfs. Il y a deux règles.
C'est pas physique.
C'est moral.
Enfin, non, c'est...
Il est ronchon.
Il a le vertige, il a peur en avion.
Ça va pas aller en s'arrangeant.
La vue,
l'âge. Il aime pas vieillir.
C'est quoi la question ?
Il a mal au dos.
Il a un petit travers, il a un petit défaut et ça va pas aller en s'arrangeant.
J'ai un petit défaut, moi ?
Ouais.
J'en ai pas qu'un, excuse-moi, Nagui, c'est gentil, mais...
De ce que l'on peut dire à la radio, en tout cas.
Et c'est pas physique.
La mauvaise foi.
C'est pas physique, non.
Il est coléreux.
Non.
La mémoire.
Oui, exactement. Ouais. Enfin, tête en l'air.
Trouble de l'attention, même, carrément.
Ah, oui.
Ah non, ça, je savais pas. Oui,
moi, mais j'aurais pas dû le dire, alors. Non, je me rends compte que j'ai une vraie pathologie. Ça.
Vous perdez, vous égarez vos clés, votre portable.
C'est un truc de fou. Mais ça, c'est plus... Je sais pas si c'est la mémoire... C'est plus, je vous dis, l'attention, quoi.
Mais moi, je suis pas docteur, mais j'aurais dit ça aussi, trouble de l'attention.
Ouais, ça va, toi. Madame, je peux pas parler en public.
Mais ça veut dire que vous êtes capable d'apprendre un texte, jouer au théâtre,
et
faire travailler votre mémoire.
Ah oui, oui.
Et parallèlement à ça, ne pas savoir, vous avez garé votre voiture en sortant du théâtre.
Non, mais est-ce que ça vous est déjà. Oui, par exemple, ça m'arrive souvent. Par exemple, qui. Ça vous est jamais arrivé.
Arrivé. Ça va.
Alors, j'ai un autre problème.
Ouais,
c'est la langue française.
Liaison, ouais.
C'est la langue française.
Ça, liaison dans
et ça vous est jamais arrivé à vous?
Alors ça, le relevage de faute.
La relevure, ça, tu, alors, la relevure de faute.
Tu me connais, attention.
Non, ce qui on dit pas relevette.
Non, par exemple, deux problèmes avec le portable. Est-ce que ça n'est jamais arrivé?
Belle imitation de Bourville, en tout cas.
C'est moi maintenant qui ne vais plus oser prendre la parole en public. Alors je m'exprime très bien. Voilà, je m'excuse.
Allez-y, Cad.
Ça vous est jamais arrivé? Ah non, c'est pas arrivé non plus. Bon, bref.
On dirait
que j'ai eu le problème de téléphoner à quelqu'un et de dire attends, excuse-moi, je ne sais pas où j'ai mis mon portable.
Ah non. Bah non, non, ça n'est jamais, jamais.
Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est jamais arrivé.
Jamais.
Ça, allô, attends, t'en bouges pas, attends, je sais pas où j'ai mis mon portable. Attends,
non, jamais.
Ça m'est arrivé une fois, et la deuxième fois.
Non, mais il faut aller voir quelqu'un. Il faut consulter.
Oui, je vais aller voir. Et la deuxième fois.
Maintenant.
J'ai cherché mon portable partout. Non, mais juste avant de partir, vous savez, vous avez un rendez-vous très important.
Oui,
genre, vous faites l'émission La Bande Originale.
Ah, oui,
on est en direct, on est bien d'accord.
Ouais,
on le prouve.
11h25. Pas de temps à perdre.
Et là, merde, le portable. Et le portable, c'est quand même le truc, tu peux plus t'en passer maintenant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on peut plus s'en passer. Alors qu'avant.
On s'en passait.
On rentrait le soir chez soi, on avait le petit répondeur. Oui, je sais, ça va être long. Digression. Deuxième qualité, la digression. Bref. Et j'ai cherché mon portable partout, et vous savez où je l'ai retrouvé?
Non. Dans votre poche.
Non, dans le frigo.
Ah oui, ça m'arrive.
Parce qu'une fois, j'ai dû aller chercher une bouteille d'eau, j'ai posé mon portable, je suis rentré.
C'est moi, ça m'arrive.
Et alors, Alexandra Lamy nous a dit ça aussi, elle peut ranger son sac ou son portable dans le frigo.
Voilà, bah donc je suis pas tout seul à être un peu.
Non, mais c'est comme chercher son crayon alors qu'on l'a à la main.
Mais non, mais
c'est pas très grave, ni pour le portable, ni pour la personne.
Et je dirais aussi l'attention.
Ni pour le frigo d'ailleurs.
Oui, quoi.
Excusez-moi.
Tu parles en public maintenant. Et tu me coupes la parole.
Oui, c'est
vrai. Je vais appeler Monsieur Molière, tu vas voir. Allô? Jean-Baptiste. Dis-moi.
Allez, parlons maintenant de Just a Gigolo.
Oui, c'est mieux. Mais qui chante ça si bien? C'est Léopold qui chante.
Léopold Moati et vous.
En duo. C'est le petit garçon Léopold qui est formidable.
Super, ouais.
On embrasse.
Qui joue votre fils dans le film.
Merveilleux enfant.
Vous le décrirez comment, donc, ce Anne Charrier, ce personnage? C'est-à-dire que c'est un gars qui, dès sa naissance, d'ailleurs on le voit au début du film, parce que le début du film va extrêmement vite pour présenter la situation, notamment le décès de votre père routier, fatigué. C'est très drôle, mais c'est monstrueux.
C'est horrible.
C'est très drôle.
Je vais bien, je n'ai rien.
Ça va, j'ai rien.
J'ai rien.
Vous verrez le film. Ah, oui. Mais donc ça, c'est extrêmement drôle. Enfin, tout est drôle dans ce film, mais pour comprendre, dès le début, ce garçon qui perd son papa dit à sa sœur je vais gagner ma vie en faisant rien.
Mais leur père s'est tué à la tâche, en fait. Il y a quelque chose d'un trauma
psychanalytique, d'enfant.
Et du coup, cet enfant, il est totalement immature. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi, il est resté figé à ce moment-là où le père décède et où il se dit non, ça n'arrivera jamais.
Donc le travail,
ça n'arrivera jamais avec moi parce que je vais trouver un moyen de faire beaucoup d'argent pour vous protéger. Clac, ça c'est un peu passé à l'as.
La famille, protéger.
Voilà, la famille, sa mère, sa soeur.
Sa maman, sa soeur.
Et ne rien faire.
Je veux être elle, dit-il en regardant une photo de...
Une jeune femme qui est avec une personne âgée.
Un vieux monsieur.
Voilà.
Genre un Hugh Hefner ou un truc comme ça.
Exactement, c'est ça.
Une couverture de Playboy avec un vieux monsieur milliardaire et une jolie fille à côté. Il dit, je veux être à sa place.
Il est à la place de lui. Non, de elle, il dit. Ouais.
Voilà.
En fait, c'est ça le truc.
Et c'est là où tout bascule. Et très rapidement, on le voit faire le beau gosse, le Camille Lacour dans un hôtel. Je pars du beau gosse nageur.
Ouais.
Ça s'arrête là, la comparaison.
Ah oui, d'accord.
Avec tout le respect que je dois à Camille Lacour. Parce qu'ensuite, oui, il y a des dames qui n'ont plus d'âge, quoi, qui doivent avoir, je sais pas, une espèce de 80, 90 ans autour
90,
de la piscine.
90,
90.
Ah, ben, ils chassent, c'est un safari. Les animaux du monde avec lui, là. Et les proies, ce sont des vieilles dames, charmantes, aisées, qui sont là, autour de la piscine, en train de se reposer. Et il a un acolyte, et ils sont en train de repérer leur future victime. Mais avec cette idée quand même assez romantique, que c'est pas juste une femme qui est au bord du précipice et qui va disparaître. Non, c'est une femme.
Oh, bah, il y a un psy, il y a un peu
gagé. Mais au début, en tout cas, on se dit, et d'ailleurs, on va le voir avec la suite du film, c'est que vous restez très longtemps avec cette femme qui va finir par vous larguer.
Fidèle, oui.
Mais vous vous dites, bon, voilà, au moins, je vais en profiter et je vais vivre bien à ses côtés. Mais vous piquez quand même la copine du la cible du copain.
Il faut citer Pascal Elbé qui est quand même un loser magnifique.
Il est génial.
Dans la vie, vous voulez dire?
Non, aussi, mais ça, j'ai pas envie qu'on en parle ici.
Bonjour Pascal.
On va le protéger.
Et pour une fois, ce sont les hommes qui sont des objets.
Oui.
Oui,
c'est vrai.
C'est des hommes qu'on regarde, on regarde les fesses des hommes.
Pardon. L'inverse serait extrêmement choquant. C'est-à-dire, on met des filles à côté, enfin à la place de votre personnage, et on met des vieux milliardaires. Là, ça devient triste.
On serait sûrement
pas
ici.
Oui, et en même temps, on n'est pas sur.
On sera en prison.
Tout le monde est consentant dans cette histoire.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Il y a un objectif très clair pour tout le monde. C'est ces femmes-là qui veulent être accompagnées par un homme plus jeune et ces hommes-là
qui acceptent de payer,
qui pourraient faire vraiment quelque chose d'autre.
C'est pas de la prostitution, c'est un choix,
un choix
de vie.
C'est une forme de mariage,
mais bien sûr.
Et comme il est donc viré, comme il est plaqué par cette riche héritière, évidemment, son seul but est de retrouver
un boulot,
une nouvelle riche héritière. Le problème, c'est qu'il a plus forcément les codes, le
30
physique
ans de plus.
Et 30 kilos de plus. Et donc, il doit faire avec sa perruque, avec son look, avec même des codes qui sont totalement éculés, à tel point qu'il va retrouver le parrain. Et d'ailleurs, la scène est un clin d'œil au film Le Parrain.
Oui, c'est vrai. Avec Thierry Lhermitte.
Avec Thierry Lhermitte.
Le roi des gigolos.
Le taulier.
Le taulier, c'est ça. C'est le patron.
Le César d'honneur.
Six héritages. Voilà. Le César, c'est
cinq
lui.
Cinq mariages, cinq héritages.
Ouais,
c'est ça.
Qui lui a un peu changer de vie parce que finalement
il a
régné en maître dans ce monde de gigolo puisqu'il a fait six mariages et à chaque fois six héritages parce qu'il a eu l'intelligence de se marier à chaque fois, ce qui est pas le cas de votre personnage.
C'est vrai. Moi je suis pas marié.
Voilà, vous vous retrouvez dans la panade parce que vous n'êtes pas marié.
Je pensais que j'étais marié et voilà. J'apprends que je suis finalement pas marié.
Et Thierry Lhermitte, vieillissant, toujours aussi beau et séduisant, changé aussi un peu d'objectif puisqu'il est avec une jeune femme maintenant. Il en profite. Il a l'argent et il prend la jeune.
Drôle cette scène.
Il est formidable, Thierry Lhermitte.
C'est Caroline Anglade, c'est ça qui joue la.
Non, c'est pas Caroline Anglade. Pardon. Caroline Anglade, elle joue un autre.
Elle joue la glacière.
La glacière.
La patronne de la glacière.
Et là, la jeune femme.
Elle s'appelle comment cette jeune femme? On la connaît pas. Voilà, je connais pas son nom.
On va retrouver son nom en tout cas.
Pardon pour.
Elle fait très bien.
Ah oui.
La faux folle qui comprend rien, qui parle mal la nunuche, mais qui parle mal le français. C'est quoi déjà la phrase?
La phrase, c'est je t'aime, tu sais, c'est important que tu le sais.
Ça, j'aurais pu le dire aujourd'hui, par exemple.
T'aurais jamais dit. Ah, mais non, ça marche pas.
Justement, Daniel Morin, les vannes dans le film, toi, tu m'as dit que t'étais extrêmement client de tout ce que. Des sketchs, des gags qu'il avait pu avoir.
Il y a des grosses ficelles qui sont tirées, mais qui marchent à chaque fois, c'est irrésistible. Je sais pas si on en parlera plus tard, mais la visite dans le salon d'esthétique pour un package.
Un rajeunissement.
Bon, teinture de cheveux, gommage, et puis il y a la fameuse scène où il demande à blanchiment un petit peu intime.
Un nuage de printemps,
mais ça, j'étais tout seul et je pleurais. Et je pleurais, ça tirait des ficelles qui sont, irrésistibles.
C'est extrêmement drôle, c'est bien fait, c'est bien joué, les comédiens au-delà d'Anne Charrier et de Cadmerat présents aujourd'hui à ce micro, Léopold Moati, pardon, Pascal Elbé, Thierry Lhermitte, Annie Dupéret qui est formidable aussi, Lionel Abelance qui est toujours parfait, Guy Lecuise, ça fait Ariel
les deux frères Dupont.
Andrea Ferréol, Yann Papin et donc Caroline Anglade, entre autres. Ce film sort demain et
c'est d'une tristesse.
Just Gigolo, c'est extrêmement drôle. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un film familial aussi. On va peut-être commencer à 12-13 ans.
Moi, je pense que ça l'est quand même.
Il y a absolument aucune vulgarité, absolument aucune.
Et puis il y a mille fois pire autour de nous.
Allez,
10 ans.
Oui, 10 ans.
À partir de 10 ans, mais même. Parce que c'est quand même l'histoire. Enfin,
c'est crétin, en fait.
C'est crétin,
au sens noble du terme. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est des ficelles classiques de la comédie, mais qui sont faites avec sincérité, avec cœur.
Il y a beaucoup d'émotions. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans le film, notamment avec cette relation entre ce petit neveu, finalement, et cet oncle un peu loukoumesque.
Que son neveu va éduquer, finalement.
C'est ça.
Alors moi je pense que c'est un film familial.
Il va grandir au contact du petit,
Je pense qu'on peut y aller toute la famille.
Donc à partir du moment où t'es avec ta télécommande, t'as accès à C8, tu peux aller voir n'importe quoi.
Oui, c'est exactement.
Ça c'est un message...
Pas du tout.
C'est un message gratuit offert par Daniel Morin.
Bah ouais, bah, ah, mais c'est vrai, mais tout le monde peut y aller, tout le monde peut aller voir ce film.
Ah, mais je suis bien d'accord avec vous.
Absolument. Maréchal Ganache, c'est un succès annoncé,
bien Gigolo. Sûr que ça va être un succès.
Merci.
Anne Charrier, mes hommages.
Bienvenue sur France Inter.
Mes hommages.
Camarade, monsieur Lecoum, compliments, monsieur.
Merci à vous, super.
Dont les talents de comédien ne sont plus inventés, servent admirablement cette intrigue dont vous venez, mon cher Nagui, d'exalter la drôlerie en une de ces approches rhétoriques qui, désormais, dans les écoles de journalisme, est enseignée sous le nom de naguisme. Un naguisme consistant, pour un apprenti intervieweur, à formuler une question incluant au moins 3, voire 4, 5 ou 6 réponses à cette même question.
Comme ils ont le choix, c'est un QCM.
La générosité.
Voilà, l'abondance. Une intrigue. Je reviens juste à Gigolo, qui pourrait être drôlissime, n'en aborde pas moins un thème aussi passionnant que le naguisme, le gigolisme, ou pratique du gigolo qui consiste pour un jeune homme, dont les moyens d'existence sont précaires, à se faire entretenir par une femme plus âgée. Mm. Ce qui pose donc aussi le problème douloureux de créatures vieillissantes en mal d'affection et prêtes à mettre la main au portefeuille pour qu'on la leur mette au panier. Alors, désolé d'être cru, mais je ne vois pas pourquoi je devrais tourner autour du pot. Si vieux et craquelé soit-il. Et voyez-vous, j'ai été d'autant plus touché car il y a effectivement, mon cher Karl, beaucoup d'émotions dans Just Gigolo, que cette histoire a ravivé en moi la plaie de souvenirs douloureux. Moi aussi, à Saigon, en 54, j'ai rencontré une riche héritière plus âgée que moi, de 45 ans. Un grand écart comme celui que cette femme, pour m'émoustiller, arrivait encore à faire, malgré ses hanches en fer blanc et ses 97 pointants. Car quand je l'ai connue, elle se produisait comme danseuse de French Cancan à l'œil de bronze, le cabaret fumerie d'opium où elle était la reine du tassel dance. Vous voyez la tassel dance?
Non.
Bah, c'est la rotation en sens inverse de chaque nibar. Et avec ses seins en oreille de cocker, ça faisait vraiment un truc bizarre. Bref, on s'est aimé. Je lui ai fait découvrir les voluptés de l'amour martial. Et puis, comme Alex dans le film, je me suis fait jeter. Elle m'a laissé tomber comme un vieux bas de contention. Elle est partie avec un plus jeune, un plus jaune, c'est un viette. Et j'ai dû alors en chercher une plus vieille, une grabataire, qui au moins ne pourra plus me quitter. Mais comme son souvenir réveille en moi les douleurs d'une terrible mutilation de mon frontement, que vous connaissez, la mutilation.
On va y aller, jeune.
Eh bien, moi aussi, j'y vais, car merci. Je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes.
Bonne nouvelle, merci à l'œil.
Bonne nouvelle, sur France Inter.
Extrêmement drôle, Just Gigolo, le film d'Olivier Barou, commandé par Cadmeira, puisqu'on a maintenant l'histoire. Bah oui.
Ah bah oui, j'imagine.
Ouais. Il a hésité un tout petit peu.
Ah non, non. Ah non, il n'a pas hésité, il a vu le film aussi, pas pratiquement en même temps que je disais de le regarder, et à la fin il m'a appelé, il m'a dit c'est...
Est-ce que c'est la première fois qu'Olivier fait une adaptation d'un remake comme ça, d'un film étranger? Parce que ça pose un problème au réalisateur, c'est comment digérer le film et faire le sien.
Oui. Non, alors on a fait l'adaptation en tous les deux déjà, donc c'était aussi l'envie d'écrire à nouveau ensemble, se retrouver autour d'une écriture et des idées. Ensuite, non, en plus la version américaine est assez différente quand même. Si on a enlevé, on a rajouté, par exemple la scène de Thierry Lhermitte n'existe pas. Mmh. Le roi des gigolos n'existe pas dans la version américaine, donc on a eu envie de ce genre de scène.
Donc le pubis lisse, c'est
le
votre
pubis
idée.
Lisse, c'est notre idée. Oui, ouais. Oui, bon, ben ça va. Voilà. Non, mais c'était la première fois.
Mais c'est intéressant parce que c'est aussi une forme d'histoire dans la hiérarchie du gigolo. Comment à l'époque Thierry Lhermitte se préparait pour séduire les vieilles femmes, voilà, avec le briquet, donc il s'épilait au briquet.
Il le
faisait
plus au briquet, à l'époque, voilà.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié.
Il n'y a pas de laser.
À notre époque, on faisait ça au briquet, dit-il. Donc moi, je trouve que c'est intéressant, sociologiquement, d'apprendre des
l'image.
Trucs.
T'as l'image et t'as l'odeur du poulet cramé aussi.
Moi, j'y vois plus qu'une comédie crétine, en fait. C'est aussi sociologiquement.
C'est du journalisme,
bien sûr, c'est de l'enquête. C'est de l'investigation.
C'est très beau d'arriver à...
Merci, Aziz.
C'est pour ça que je suis là.
Est-ce que la comédienne dont on cherchait le nom tout à l'heure serait Alban Mazel, qui jouait le rôle d'Eva?
Oui, c'est bien possible.
Pas du tout.
Excuse-moi, on s'est vu une demi-journée.
Non, c'est clair. Ouais, non,
je ne l'ai pas vu, sinon je m'en souviendrai.
Si vous avez recherché, ça doit être ça.
Elle a une phrase de 10 secondes.
Une phrase et une séquence. Mais
elle joue. Tout le monde se souviendra.
Mais c'est bien
de faire l'effort de la chercher.
Exactement, bravo, Nagui.
Voici l'humeur, quel est votre nom? Ah oui, Agnès sur Stella.
Je suis née à Toulouse le 5 septembre 1990, à la clinique Ambroise Paré. L'obstétricien s'appelle Paul Boubli, la sage-femme Babi Siboni. Ma vie se passe bien, je bois des berlingots au Jardin des Plantes. Le dimanche soir, c'est Happy Meal au McDrive de l'hypermarché. Passion dans la vie, les hypermarchés, on a ça avec les gars en commun. J'ai des amis, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs juste un week-end sur deux, donc c'est génial. Et puis l'été 96, on monte à Paris pour le travail de mon père. Paris, quand tu viens de province, c'est un truc de malade. Je regardais le JT, je me disais putain, enfin je disais t'as forcément putain, mais Paris, c'est là que les poubelles brûlent, c'est là que vit Jacques Chirac, c'est là qu'il y a toutes les stars de cinéma. À Toulouse, il ne se passe rien, à part le rugby, mais moi, je préférais la GRS. Donc j'entre au CP le 5 septembre 96 à l'école publique de la rue de Lambre dans le 14e, le jour de mes 6 ans. La maîtresse s'appelle Madame Dixo, elle est gentille, mais elle peut pas faire grand chose au fait que j'ai l'accent toulousain. Je dis rose et pas rose, je dis poche et pas sac. Ouais. Quand un truc colle, je dis ça pègue et non pas ça colle. Et ça, ça fait rire les élèves et elle ne peut pas y faire grand-chose, Madame Dixo. En face de l'école, rue de Lambre, il y a une boulangerie et à la fin de la première journée, je me suis pas encore fait d'amis, parce que c'est toujours comme ça les premiers jours. On attend une brèche pour s'engouffrer habilement dans la vie de nos futurs meilleurs copains. Donc je fais la queue avec ma babysitter. Et quand c'est mon tour de parler à la boulangère, je demande une chocolatine. Parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'est un pain au chocolat. D'accord? Un pain au chocolat, il faut vraiment que vous m'entendiez, les gens. Ça veut dire un pain, ouais. Genre une baguette, avec du putain de chocolat dedans.
Je suis absolument d'accord.
C'est mi-salé, mi-sucré. Je ne dis pas que c'est dégueulasse, je dis que ça n'est pas normal et que ça n'est pas un goûter pour enfants. Pardon, je me calme. Donc je dis chocolatine à la dame. Et là, il y a trois gars de CE1 derrière moi, des types vraiment dangereux, genre couilles de mammouth et pox dans la poche arrière, qui se foutent de ma gueule et qui me font pleurer. Et à ce moment-là, il y a une main qui se pose sur mon épaule et qui me réconforte. Elle s'appelle Clémentine. Elle devient immédiatement ma meilleure amie. Elle est belle, elle est sympa. Elle s'en fout que j'ai un accent de vieille cagole qui a trop pris le soleil alors qu'il me manque des dents devant. Elle ne me juge pas. On ne se quitte plus avec Clémentine. Et pour plein de raisons bizarres, on va vivre à moitié l'une chez l'autre. On écoute du Balavoine à fond. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. En mimant des trucs hypersexuels parce qu'on oublie que les enfants sont fascinés par le cul. La vie passe. On porte du pareil au même. On fait des smacks à des garçons dans la cour de récré entre les poubelles et les platanes. Je perds mon accent. Je tombe amoureuse d'Hugo Brun. Puis de Pierre, le fils des pharmaciens, puis re du Gobrin parce qu'il m'écrit des cartes postales et que sa mère est trop belle. J'ai des poux une fois, deux fois, trois fois, ça fait hyper chier ma mère, je les refile à Clem. Et puis un jour, on nous emmène en sortie scolaire. C'est toujours génial les sorties scolaires, même quand c'est juste pour du ping-pong et que t'as jamais touché une balle, c'est toujours un moment fort une sortie scolaire. Tu vas pouvoir t'asseoir à côté du Gobrin, tout ça. Ce matin-là, on nous emmène à Notre-Dame de Paris. Et moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Versailles, j'ai loupé la visite parce que mon petit frère m'a refilé la varicelle en rentrant du ski. Et la Tour Eiffel, je sais pas pourquoi, mais je la visiterai quand c'est CE2. C'est immense, c'est hyper beau. C'est Notre-Dame. Et moi, j'ai pas de religion, donc je sais pas prier. Mais je me souviens qu'avec Clem, on a pris 2 cierges, j'avoue, on les a pas payés. On les a brûlés et on a prié hyper fort à des trucs hyper graves pour nous. Genre qu'on voulait avoir des enfants avec Hugo Brun. C'était super. J'ai cherché des toilettes, je ne les ai pas trouvées. J'ai perdu mon groupe, puis je l'ai retrouvé. J'ai croisé plein de Japonais. Je me suis dit qu'à Toulouse, il n'y avait vraiment pas du tout autant de Japonais. Un parent accompagnateur m'a dit dehors que le roman de Victor Hugo, que je ne lirai que 7 ans plus tard en 5e avec Madame Guitard, il se passait là, à Notre-Dame de Paris. Et qu'Esmeralda, en fait, son vrai prénom, c'était Agnès. J'ai trouvé que c'était dingue. Je me souviens que je me suis demandé si elle avait l'accent toulousain, Esmeralda, et si Victor Hugo, il avait prévu qu'il y aurait autant de Japonais sur son parvis. Je me souviens aussi que je me suis dit que ce serait bien de revenir un jour où il y aurait moins de monde, moins de touristes pour emmener mon petit frère Paul, et que vraiment, les Parisiens, ils savaient faire des trucs de dingue. Finalement, j'y suis jamais retournée. Je me souviens aussi que j'ai pas du tout capté que c'était un lieu de dingue, mais que j'ai passé une super journée. Bonne semaine.
Joli.
France Inter, Nadine, la bande originale.
Bravo, ouais, bravo, c'est, bravo,
ouais,
bravo,
ouais,
bravo.
C'est pas
très bien écrit. Bravo.
Très bien écrit, et puis c'est pas facile, parce que ça nous pique tous, quelque part, cet incendie de Notre-Dame de Paris. On peut pas faire de rien n'était. Mais c'est vrai que tu as raison de le préciser. Quelles que soient les croyances, la religion, l'endroit qu'on ait grandi avec, autour ou pas, chacun a sûrement eu un petit ou un gros pincement et une vraie tristesse, et puis se pose la question de... Je l'ai vu, je l'ai pas vu.
Je m'en souviens ou pas.
J'y étais, j'y étais pas.
Quand c'était,
je pourrais plus jamais la voir.
Non, mais on va reconstruire. Plus jamais.
Ouais, mais ça va prendre du temps. Ouais. Il y a, d'ailleurs, c'est l'expression. Elle a mis 107 ans à être construite. Quand on dit l'expression, tu vois, je vais pas mettre 107 ans à faire ci, 107 ans à faire ça.
Ouais, je savais pas.
Ben ouais, ça vient de la durée de la construction de Notre-Dame de Paris. Et alors, je suis pas évidemment du côté des complotistes, mais pour aller au bout de l'anecdote, hier c'était l'anniversaire du naufrage du Titanic, c'était un 15 avril, et c'était il y a 107 ans.
Oh.
Faut envoyer une pub là, parce que là, on est tous dans l'émotion. Là.
Moi, ça me donne envie de bouffer une chocolatine, les filles.
Ah, oui, 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 oui.
Ah,
quelle chanson.
Anne, Agnès, Chocolatine.
Bah oui, Chocolatine.
Ouais, c'est fou ce que tu dis là, ça me tue ça, ces trucs là.
Non, mais t'as des. Ouais, t'as des.
Il n'y avait pas aussi un truc. Oui. Attends, c'est gentil. Hier, il s'est dit tellement de choses. Et en
non,
plus.
Non, mais Notre-Dame de Paris, ça fait partie
de la semaine.
C'est que. Non, pas avec des choses. Non, alors les complotistes, c'est tout ça, on oublie évidemment. Mais.
Ah, ils disent que. C'est peut-être Macron qui a provoqué ça pour pas parler à la télé. Il faudrait vérifier.
Ou c'est pour le lancement de Game of Thrones, ouais.
Bien, il faudrait vérifier.
Mais si ce que tu dis est vrai, Nagui, ça, c'est un truc que je vais ressortir, tu vois. Dès ce soir, au dîner.
N'importe voilà. quoi.
Non, ouais. peut-être.
Mais c'est vrai que la Tour Eiffel, Notre-Dame, on a l'impression que ce sont des choses intouchables.
Oui, oui, c'est que c'est permanent.
Et que rien ne peut leur arriver. Et ça nous renvoie à notre enfance, ça nous renvoie à des valeurs qui sont stables, alors que rien, justement, n'est... rien n'est stable autour de nous et encore moins.
Et l'image était incroyable, l'image, ouais. hier. On voyait tous, on regardait ça comme un... Je sais pas.
Un film d'anticipation.
Ah, c'est un truc de fou, en fait.
Et avec toujours l'intelligence de Donald Trump qui dit, mais envoyez des Canadair.
Oui, oui, oui. Ah bah oui, magnifique.
Quel idiot.
Les Canadair.
Oui, il faut réagir vite. Merci beaucoup.
Il faut réagir
beaucoup.
Vite, ouais.
Donc,
c'est fou, hein.
Le mec, il donne un conseil,
mais non, mais
il est sympa.
Parce que il nous aide un peu, nous, qui sommes d'un pays un peu
idiot,
ouais. Ouais, on est idiots. Donc je rappelle pour ceux qui se posent encore la question, et les pompiers ont répondu à cela, envoyer des tonnes d'eau sur Notre-Dame de Paris aurait fait écrouler totalement Notre-Dame de Paris. Or, ils ont réussi à sauver cette structure, à sauver la coupole et à ne pas propager le feu, parce que écraser un toit qui brûle, les poutres et le feu tomberaient au sol. Et
t'es architecte maintenant.
Et tout ce serait. Non, mais j'ai le site des pompiers, et on peut saluer aussi le travail des 400-500 pompiers, dont certains d'ailleurs ont été blessés dans leur intervention. Ils ont fait un boulot de dingue, énorme. Et c'est quand même pas Donald Trump qui va venir expliquer à nos pompiers ce qu'il faut faire.
D'abord.
Non, mais je rêve. Bon, La Belle Vie, ça fait partie de la BO.
Oui, c'est vrai.
Du film.
C'est le début du film. C'est pour exprimer cette...
Nonchalance.
Cette vie, voilà. De soleil, de voiture de luxe.
En peignoir.
Non, mais c'est génial. Il en a
vie,
une,
quoi.
Il en a une de chaque couleur, c'est ça?
Oui, ouais, la même marque, hein. Je sais pas si on peut le dire.
Ouais, ouais, c'est quoi, Austin?
Aston Martin.
Austin Martin.
Austin Jacqueline. C'est une autre marque.
C'est la Jacqueline.
C'est plus
une de chaque couleur.
Oui,
mais
oui,
c'est fait à la palette graphique, vous avez
non,
vraiment
non, commandé. On avait vraiment. Ah oui, budget. Non, mais c'est pas ça.
On en a gardé chacun une.
On était plus ou moins en
partenariat.
Partenariat avec Aston Martin là-bas. On était à Cannes, hein, donc là-bas il y en a beaucoup, et le garage nous a prêté toutes ces voitures. Voilà.
Parce qu'il y a des couleurs. Je ne savais même pas que ça existait. Hein.
Il y a
du jaune, du rouge, du rose.
Ah, mais
c'est pour les sœurs Kardashian, en fait. Étudier exprès.
Ah oui.
Et puis il y a souvent aussi dans le film.
Just an illusion, hein, c'est.
Ben le titre,
c'est le choix d'Olivier, ça.
Le titre veut bien dire ce que ça veut dire.
Ouais. C'est Olivier qui a choisi les chansons, tout ça. C'est lui qui a et Martin Rapneau qui a fait la musique du film. Martin Rapneau.
Très bien. Parlons des musiques que vous écoutez fin des années 70, début des années 80. Anne Charrier, écoutez.
Oh merde.
Vous voyez où en écoutant Jackson?
On le voit.
Ah ouais, carrément.
Chez moi, avec mes parents,
miroir,
chez nous, on écoutait
Corée,
exclusivement de la variété française.
Très bien.
Avec une grosse tendance Michel Sardou. Donc Michael Jackson est arrivé comme un
enfance douloureuse.
Non, quoi,
Michael Jackson est arrivé comme un courant d'air frais, comme ça, un truc. Et c'était merveilleux. Et puis c'était effrayant, c'était. Ce rythme, tout ça, tout l'album était fou.
Mais vous étiez une petite fille devant son miroir à reproduire les chorégraphies de Michael Jackson.
Ouais, en patin roulette avec ma cousine, on faisait.
Ah, c'est classe.
Je l'embrasse d'ailleurs.
Et une fratrie assez joyeuse, c'est
ouais,
ça, autour
ouais, ouais,
de
très
vous,
joyeuse.
Qui jouait régulièrement à quoi, à mettre en scène des choses déjà, cette notion du spectacle ou pas? Souvent, c'est.
Moi, je mettais beaucoup en scène. J'étais fatigante même, je pense, pour les autres. Mais oui, c'était très heureux. Bah, c'était la petite maison dans la prairie. On était.
On mangeait des
chocolatines. On était en pleine campagne. On avait des animaux, on mangeait des chocolatines en voiture, voilà.
Pas de pain au chocolat.
Non, on déteste.
Parce que ça n'a aucun sens, Nagui.
Ça n'a pas d'intérêt.
Et voilà, donc c'était non, c'est une enfance très joyeuse, ouais, effectivement.
Dans ces mêmes années, caméra d'écouter.
Ah merde, merde alors.
J'ai failli choisir aussi.
Ah ouais.
Michel Sardou encore.
Incroyable. Voilà.
Vous étiez bon danseur dans les booms, justement, pour draguer.
Extraordinaire, moi. Vraiment, puis je dansais, là je l'aurais bien fait parce que j'avais une façon de danser. tu sais, tu balayes un côté d'un pied et l'autre côté après. Tu vois ce que je veux dire? Cette espèce de danse.
Enfin, je te fais. Parkinson, je veux dire.
Non, c'est tout comme ça. Attends.
Ouais, c'est une belle démonstration de caméras.
Ah, et tu balayes, là vous voyez pas, mais les pieds ils font ça.
Moi je l'ai pas, moi je l'ai pas.
J'avais ça, et à la maison, nous on écoutait beaucoup Dalida, par contre, non c'est vrai. Parce que ma mère écoutait beaucoup Dalida à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai marché sur mon sac. Nous c'était Dalida.
Et tout à l'heure Agnès parlait de ses enseignantes qui l'avaient marqué. Vous c'est Madame Rosas, prof d'espagnol.
Alors en 80, oui, je sais plus quel âge j'ai en 80, moi, il faudrait que je calcule.
Je suis bon en français
et en maths, en fait, vous allez le savoir très vite.
Vous avez 16 ans en 80.
J'ai 16 ans. Donc 16 ans, je suis en CM2. Donc, Madame Rosas, une cours d'espagnol qui m'a la première fois mis sur une scène de théâtre dans une pièce en espagnol. Et c'est comme ça que j'ai ressenti toute cette émotion d'être sur scène et de faire rire les gens dans une pièce qui n'était pas drôle, en fait.
Et pourquoi vous les faisiez rire, d'après vous?
Parce que je sais pas. Parce qu'il y avait. Je sais pas, j'en rajoutais, j'en faisais des caisses, quoi. J'étais déjà. J'en faisais déjà beaucoup trop.
Mais non, parce que je t'imagine en train de faire le truc de l'habitas, là, tu sais.
Manitas de l'habitas, mais ça, c'est plus tard, ça.
Oui, je sais. Mais ça m'amuse de me dire que t'as commencé dans une pièce en espagnol.
Ah, oui.
Et qu'ensuite, ce personnage magnifique.
Ça n'a aucun rapport, en fait.
Ok, pardon.
Ce qui est bien, en tout cas, à Cadmirade, c'est qu'on voit le connaisseur que vous êtes, parce que vous nous avez demandé à entendre Billie Jean de Michael Jackson. On a passé Beat It, ce qui n'a dérangé personne, visiblement.
Oui, pas grave.
C'est sur le même album.
Non, mais je pensais à.
Ah, moi, je préférais Billie Jean. Pour le clip surtout, moi c'est le clip
avec les dalles
qui s'allument, ah, oui, voilà.
Et l'intro, la batterie, parce que vous étiez batteur.
Exactement, hein. Oui, déjà à cette époque-là je jouais de la batterie, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Et Billie Jean, oui, pourquoi ils ont mis Beat It?
Parce qu'ils sont comme vous, ils oublient plein de choses dans le frigo. Anne Charrier,
pour l'emploi.
En 97, non, on va commencer par les prud'hommes.
Voilà.
On va commencer par les prud'hommes. En 97, Anne Charrier, vous écoutiez.
Pardon.
Parfait.
J'ai failli le mettre.
C'est vrai?
Non.
Vous, comment on est connecté?
On est connecté, hein?
Tellement.
Ah, les slow, y'a rien de meilleur. Hein.
Rage Against the Machine. Quand ils vont envoyer cette musique-là pour votre montée sur scène pour prendre le Molière, ça va le faire.
Ah ouais, je sais pas, j'ai perdu tous mes moyens.
Et Anne, 97, c'est votre arrivée à Paris?
Ouais.
L'école supérieure d'art dramatique, et 2 ans plus tard, votre premier rôle dans La Nuit des Rois de Shakespeare. Ouais. Vous avez quel souvenir de cette mise en scène?
C'était professionnel au sens où on faisait avec beaucoup. Mais il y avait une espèce de enfin voilà, on était encore, la distribution bougeait beaucoup, c'était un souvenir magnifique. Et puis, ce morceau, c'est aussi en 94, les Hurricanes de Belfort avec Rage Against the Machine qui joue l'arrivée dans la poussière comme ça avec et puis cette période que raconte la chanson, c'est de dire je les laisserai pas, enfin ce que dit Rage Against the Machine en général, c'est-à-dire de pas les laisser
dicter notre
conscience. Décider pour nous.
J'ai décroché, moi.
Ouais, moi aussi, j'ai décroché au milieu de ma phrase, quoi.
Non, alors que vous décrochez vous-même de vous, c'est
pas ça. Ouais, je trouve ça fatigant.
Donc,
en même temps, c'est une force.
Ouais, moment, pas du tout.
Au moment où Anne Charrier écoute. Cadmera d'écoute.
Savoir donner. Sans reprendre.
Ah,
ne rien faire qu'à
ça marche toujours, ça.
C'est
ton copain.
C'est mon pote.
Ben oui, voilà, c'est
ça me permet toujours de le saluer comme ça, de penser à lui, parce que je pense souvent à lui. Il est là aujourd'hui, mais il va bientôt revenir nous voir.
C'est un mec bien d'abord.
Ah oui. Puis c'est une amitié qui dure déjà. Et puis il m'a beaucoup conseillé, lui, comme il avait vécu pas mal de choses et pas des meilleures dans sa carrière.
Avec des producteurs, voilà, avec des contrats.
Il m'a beaucoup conseillé. Ouais, même dans l'entourage, comment se méfier de l'entourage, etc.
La prison, tout ça.
Non, mais Il m'a beaucoup conseillé et j'ai souvent écouté ce que me disait Florent. Alors, il dit pas que des choses bien tout le temps comme tout le monde, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, qui est toujours le même, quoi, aussi fidèle, aussi généreux. Ça reste un énorme chanteur en plus.
Ouais, on l'a déjà raconté à ce micro, mais je peux pas faire autrement chaque fois que je vois Cadmira de rappeler cette anecdote, parce que là on est dans les années 90, où j'avais la chance de commencer Taratata et de faire N'oubliez pas votre brosse à dents et d'être lancé entre guillemets, et il m'appelle et il me dit il faudrait que t'écoutes un gars qui fait de la radio. Et il s'appelle Cadmirad, et c'est un peu tard le soir, si ma mémoire est bonne. Et il défendait son pote en disant t'as pas un truc, tu peux pas lui proposer de faire quelque chose. Et on s'était rencontrés d'ailleurs à l'époque,
je t'ai proposé,
t'as pas voulu.
C'est bien payé. C'est pas grave.
C'était fait à l'époque.
C'était sur UFM, et j'ai finalement fait Taratata. Patrick Bruel il y a pas longtemps. Et c'était un rêve pour moi de chanter à Taratata. Je te jure que c'est vrai. Il m'avait proposé à l'époque de venir faire un truc, parce que dans l'émission de radio, je faisais de la guitare, je faisais des personnages, enfin, c'était un peu n'importe quoi. J'avais des gens qui m'appelaient, j'improvisais des chansons, et on avait essayé de trouver ensemble, je me souviens, ce rendez-vous, une manière d'intégrer Taratata, et ça s'est pas fait. Bon, après, c'est pas grave, j'ai fait autre chose.
Tu te souviens l'idée ou pas?
Je m'en rappelle plus ce qu'on s'était donné.
L'idée, c'est d'être le chanteur loser qui vient chaque fois devant la vedette en disant, non, mais la chanson, le tube, là, c'est moi qui l'avais faite il y a 10 ans.
Pourtant, elle était bonne, cette idée.
Et le gars ressortait guitare-voix, une version pourri en disant c'est moi qui t'ai inventé.
Mais elle était bonne cette idée, mais peut-être que j'avais peut-être pas assez confiance en moi et peut-être que c'était trop gros pour moi.
Non mais surtout t'as bien fait de refuser vu tout ce qui s'est passé derrière.
Oui, mais ça aurait pas empêché peut-être.
Si. Ça aurait été la fin de Taratata et la fin de ta carrière.
On serait pas là aujourd'hui.
Janine est à ce micro. Janine Mozus-Lavaux, merci de venir à ce micro. Janine, vous êtes sociologue, politologue, directrice de recherche au CNRS et au CVPOF, auteur en septembre dernier de La vie sexuelle en France aux éditions de La Martinière. On parle des gigolos avec ce film Just Gigolo. D'abord, ça existe? Un gigolo, c'est une image d'Épinal, on appelle ça maintenant escort boy, taxi boy, je ne sais pas.
Non, ça existe, mais disons que gigolo et escort, c'est pas, je dirais, tout à fait la même chose. Gigolo, comme dans le film très émouvant que j'ai pu voir heureusement, c'est quelqu'un qui s'installe, donc
c'est une histoire,
comme Cadmerad qui s'installe avec une vieille dame et qui reste, puisque elle l'entretient et lui procure des services sexuels l'accompagne, l'emmène partout, etc. Donc il y a une durée, et en tout cas dans le film, la durée est, je dirais, assez surprenante
Ça se compte en années.
28 ans dans cette situation-là, c'est un peu compliqué. Mais enfin, disons que c'est intéressant. Et alors que l'escort boy, c'est effectivement très beau garçon, bien sous tout rapport que n'importe quelle femme d'affaires ou autre peut sonner via un catalogue, internet, tout ce qu'on veut, et l'emmener si elle a besoin. Alors, ça peut être de services sexuels, mais ça peut être aussi l'accompagner à un dîner d'affaires, un endroit où il faut qu'elle arrive accompagnée.
C'est de la prestation événementielle,
Donc, c'est en général, il peut y avoir des rebelotes les jours d'après, mais disons, l'escorte, c'est plus momentané, plus ponctuel.
Donc pour vous, le gigolo n'est pas un prostitué.
Alors, le gigolo, dans le film, je trouve qu'il paye quand même tellement de sa personne que je ne suis pas sûr qu'on puisse assimiler ça à de la pure prostitution, parce que la prostitution, ça ne dure pas 28 ans en général. Une passe, c'est plus rapide que ça. Je ne sais pas si ces messieurs ont des souvenirs, c'est plus rapide que ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, en même temps, c'est vrai que le terme gigolo, on l'emploie plus tellement. Il y a encore, vous regardez sur Internet, il y a encore un endroit qui s'appelle formation à être gigolo. Il y a deux, trois trucs comme ça.
Absolument.
Il y a des forums, il y a aussi des forums
où
des gigolos ou apprentis gigolos se demandent des conseils, etc.
C'est pas illégal,
c'est à peu près le seul endroit où on emploie ce terme.
C'est quoi le meilleur site?
Alors écoutez, je pense qu'il faut que vous essayiez, parce que je ne connais pas vos goûts, tout cas pas tous.
On en parlera tout à l'heure.
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est la bonne idée du film, c'est d'avoir justement donné comme titre Just Gigolo, parce que si les gens savent plus trop, on ne emploie pas le mot gigolo, ouais. Ils se souviennent de la chanson. Parce que la chanson et la musique, je dirais, elle a été interprétée par tellement de gens, ce qui fait qu'il y a des générations entières qui savent. Parce que la chanson, au début...
Louise Prima.
Elle a été, oui, bien sûr, mais avant, elle a été interprétée par Damia, elle a été interprétée par Frel, et bien après, reprise par Louis Armstrong, par David Bowie, et même par Thelonious Monk, l'air a été joué. Donc, ça reste, c'est présent. Comme ça. Alors que le terme lui-même est plus tellement dans le vocabulaire.
Est-ce que le gigolo, même, parce que les escort girls, la prostitution, et je sais plus, on en est des lois, mais enfin, c'est interdit par la loi. Je sais pas si
non, c'est. Non, la prostitution n'est pas interdite en France. Il faut savoir. Ce qui est, non. Le racolage non plus depuis la loi de 2016. Ce qui est interdit, c'est d'être client, c'est d'acheter des services sexuels. C'est-à-dire, on est dans une situation en France complètement.
D'une hypocrisie totale.
Bête en plus, c'est-à-dire on n'interdit pas la prostitution et d'ailleurs elle est rackettée par l'État puisqu'il faut payer des impôts, les prostituées doivent déclarer leurs revenus ouais. Et payer des impôts. Mais on interdit, quand on a fait la nouvelle loi en 2016, on a supprimé le délit de racolage passif qui avait été instauré en 2003. Racolage passif déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, on a supprimé ce délit, donc on a dit aux prostituées, vous allez pouvoir travailler tranquille, quoi, on ne va plus vous emmener au commissariat. Mais dans le même temps, on a interdit aux clients de les approcher. Donc, et là, ils peuvent avoir des amendes.
Janine, on a encore plein de choses à vous demander. Voilà. Vous pouvez rester avec nous encore 5 minutes.
Oui, je reste encore.
On aura la grille de tarifs. On a des choses.
Parce que je voudrais dire quelque chose du film. J'ai quelque chose d'ailleurs de sympathique à dire sur le film.
Laissez-la parler.
Qui n'a pas été dit.
Après.
Tanguy Pastureau, Marine Le Pen. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Marine Le Pen lance actuellement un emprunt patriotique.
Oui, le concept est basique. Vous lui prêtez de l'argent, mais en chantant la Marseillaise avec la main droite sur le cœur. Bien que vous devez attraper les bifetons avec une seule main. C'est pourquoi les manchots sont plutôt de gauche. Et dans un an, vous toucherez des intérêts. C'est plus un parti, le RN, c'est la caisse d'épargne.
La bande originale avec Léa Kadokoudadi, Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour Françoise,
Albert Algou, Tanguy Pastureau, et nos invités Anne Charrier et Katia.
Surtout elle.
Le public est déchaîné. Demain au cinéma.
Chante.
Nous parlions donc de ce film que l'on a aimé,
j'allais.
Réalisé par Olivier Barrault, oui. Et incarné par Anne Charrier, par Cadmerad, entre autres dans ce film, il y a également Pascal Elbé qui est formidable, ouais. Thierry, enfin tout le monde est bien de toute façon, Thierry l'ermite aussi, Léopold Moati qui va être une révélation, Annie Dupéré, Ariel Semenov, Lionel Abelansky en loueur de bagnole, enfin c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'il donne de l'argent pour mettre des autocollants de promotion sur les voitures et il veut récupérer son argent si on a le autocollant. C'est extrêmement drôle. Guy Lecluse qui est avec lui, Andrea Ferréol, tout ce beau monde donc pour Just Gigolo. Et nous parlions des gigolos avec Janine Mozus-Lavo. On n'avait pas fini de dire ce que l'on avait à dire. Surtout vous vouliez rajouter quelque chose sur le film.
Sur le film, oui, parce que je trouve ce film, c'est une fable d'une certaine façon. Bon, c'est une comédie, c'est drôle, on rit et tout ce qu'on veut.
Mais vous dites touchant.
C'est une fable, je trouve que le personnage que joue Cadmerad, qui est à la fois amoral, brinzing, enfin tout ce qu'on veut à côté de ses pompes, on peut en faire une liste comme ça. En même temps, il joue un peu dans toute cette famille et l'entourage le rôle que jouait l'ange de Théorème. Vous vous souvenez du film italien où cet ange arrive et ce très beau garçon, et en ayant une histoire avec chacun des personnages, il révèle les personnages à eux-mêmes et à la vraie vie. Et là, le personnage de Cadmerad fait changer la sœur, qui est quand même, quand on la voit au début, elle fait un peu peur. Hein, elle est rigide, elle est... Oh là là, non, mais c'est une mère
vous, Anne Charrier,
qui tient son fils un petit peu hors de la réalité. Il y a des mots qu'il ne connaît pas, des tas de trucs qu'il ne connaît pas. Et l'oncle va arriver, puis il va à la fois faire changer la sœur, faire découvrir aux gamins des tas de trucs que le gamin ne connaissait pas.
Parce qu'il apporte une autre forme d'humanité, et parce qu'ils vont se retrouver.
Et aux autres personnages aussi, tout le monde.
Est-ce qu'on peut, Janine, donc j'ai bien compris,
absolument. Et je trouve que c'est un truc du film qu'il faut dire.
Est-ce qu'on peut revenir sur le regard que l'on porte justement sur les gigolos, et d'ailleurs que ce soit les gigolos ou les dames qui font appel à ces gigolos.
Oui, les gigolettes.
Je ne sais pas comment on appelle
ça. On peut les appeler gigolettes, oui.
Les patronnes. Est-ce que d'abord, dans votre analyse, dans votre vision de la vie sexuelle en France, c'est dans l'air du temps, c'est normalisé, il y a un pourquoi pas, ça gêne personne qu'une dame ayant les moyens entretienne un garçon plus jeune qu'elle, musclé, qui lui permette de rester heureuse dans sa vie peut-être de femme seule.
Bah, disons que c'est un classique, ça existe depuis la nuit des temps, hein, c'est pas nouveau, hein, des femmes riches qui s'offrent un beau jeune homme. Bon, c'est vrai que dans le ce qui est nouveau dans le film, ce que je disais, c'est que ça dure quand même plus que ça dure dans les exemples qu'on peut connaître. Et puis dans l'autre sens, des femmes qui se font entretenir par un vieux monsieur et qui parfois les épouses se font épouser et qui deviennent, par exemple, femme au foyer, l'application, l'appellation noble. Bon, c'est pas non plus si loin de ce genre de situation.
Donc, mais il y a quand même toujours une grosse différence d'âge entre les dames qui font appel à leur gigolo.
Parce que si elles étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup plus comestibles, beaucoup plus attrayantes, elles n'auraient peut-être pas besoin de sortir leur portefeuille. Hein.
Ou alors elles ont envie de chair fraîche, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut être aussi, on peut avoir 50 ans, être encore bien conservé, mais désirer être avec un corps jeune, être avec un jeune homme. Et c'est pas une question de plus être comestible, c'est une question de choix.
Le public et c'est mort, et c'est très facile.
C'est le comestible qui plaît à monsieur visiblement.
Monsieur a faim d'un seul coup.
En tout cas, il est
12h12. Hein.
C'est très facile parce que vous allez sur Internet, vous avez des catalogues avec.
Donnez-nous les sites. Donnez-nous les sites.
C'est tellement simple. Vous allez chercher un peu. Il faut un peu d'effort si vous voulez du plaisir, monsieur.
Mais c'est quoi l'écartage?
J'ai réfléchi. Vous savez, à mon âge, c'est terminé.
C'est quoi l'écartage? Parce que dans la société, on voit très souvent des hommes avec des femmes plus jeunes que eux. Qui gagnent beaucoup mieux leur vie pour le coup, et on dit et on regarde pas ça comme des gigolos inversés. C'est quoi l'écartage pour que vraiment on parle d'un gigolo?
Ça peut être un peu tous les jours, ça peut être
c'est une génération.
20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais. 40 ans, je veux dire, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de définition. Dans ce genre de situation, les définitions, c'est quand même un peu flou.
Par définition, il n'y a pas de définition.
Non, ce qui est plus rare, et c'est un point important dans le film, c'est la fidélité de ce gigolo. Parce que lui, il est en train de vivre son histoire.
Il est comme un coq en pâte, et finalement, cette situation a l'air de lui convenir. Donc tout va bien. Bon, il se fait jeter. Ça aussi, c'est un peu inattendu.
C'est pas un coq en pâte. C'est un cas dans Loukoum. C'est dans Just Gigolo, le film. Merci beaucoup, Janine, d'être restée avec nous. Merci mille
fois. Merci, Janine. J'ai le même prénom que ma maman. Voilà.
Voici Tanguy Pastiaux.
Non, mais c'est vrai. Janine, c'est joli.
C'est vrai.
C'est très joli prénom, Janine.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous allez nous parler de Marine Le Pen.
Oui, ce que je fais rarement, j'ai plus tendance à me moquer des gens de gauche par esprit de contradiction parce que je suis sur Inter, ce qui est très puéril de ma part. Si j'étais sur Equidia, je pense que je dirais non, les ânes c'est mieux. Et le problème, quand on est humoriste et qu'on parle du FN, enfin du RN, là, c'est plus un parti, c'est un scrabble avec ton oncle, c'est qu'on tombe dans la chronique à message, on finit en sanglots à dire allez de retour, la peste brune, comme toutes ces stars qui crient si telle ou telle passe aux élections, je me casse, et qui trois jours plus tard, quand telle a gagné parce qu'il était meilleur que telle, vous explique qu'elles avaient oublié de refaire leur passeport. Et puis ça va, le RN, moi je veux bien vous dire que c'est le Troisième Reich, mais la vérité c'est que c'est un parti de branquignoles, comme les autres, ils sont nuls. Marine Le Pen, il y a 2 ans, a déboulé dans le débat du second tour sans avoir préparé quoi que ce soit, détendue comme Bob Marley en 78, elle a juste fait, ils sont là, dans les villes, enfin on n'a pas compris. 7 mois plus tard, à sa sortie de psychiatrie, elle a réalisé que Macron était passé, elle s'est dit super, je reste dans l'opposition, c'est toujours plus confortable. Regardez Wauquiez, pourquoi est-ce que tout le monde le trouve charismatique, se dit c'est le nouveau De Gaulle? Gaulle. Bon, ok, personne ne se dit ça. Dans Game of Thrones, il se ferait décapiter par un nain au bout de 16 secondes.
Grave.
Mais on pourrait se le dire si on se drogue. Eh bien, c'est parce qu'il est dans l'opposition. Alors, Le Pen, pour les Européennes, a mis en tête de liste un petit jeune, Jordan Bardella, 23 ans, qui n'a pas encore de poils et au niveau série en est à la saison 4 des Pyjamasques. Avant, Bardella était le chef de Génération Nation, le mouvement des gens qui bégayaient presque des mots entiers. C'est la branche jeunesse du RN. Et comme chargé de com' dans la campagne, attendez, ils ont mis Philippe Vardon, un ancien du bloc identitaire, qu'on voit dans une vidéo YouTube il y a 20 ans, s'éclater dans un concert de skinhead. Ces gens qui, si leur mouvement se généralisait, ruineraient Camille Alban, puisqu'ils se rasent la tête eux-mêmes. Mais enfin, ne jugeons pas qui n'a pas été skinhead dans sa jeunesse. Comme me le disait hors antenne Cadmerade, ajoutant la musique était pas top, mais ça nous permettait de nous défouler sans passer par la case fitness. Bref, le RN, c'est un assemblage absurde de radicaux, de jeunes plus cool, de dames blondes du sud-est qui ont enfilé le manteau léopard de leur chihuahua. Le tout chapeauté par une femme larguée, tentant de faire oublier son père, Jean-Marie, lequel est un gangsta rappeur blanc de 90 ans, puisqu'il vient d'être condamné pour détention illégale d'armes. Chez lui, il y avait un flashball, un fusil à pompe, un pistolet 7.65, un Colt calibre 38 et un Luger 9 mm. À côté de lui, Booba et Caris dans leur octogone, c'est Tic et Tac en train de se battre pour la dernière cacahuète Benenet. Le Pen père, alors quitte le Parlement européen ce jour. Sa fille lui a rendu hommage hier et l'a dit, il a soufflé sur la petite flamme de la nation. Ce qui est totalement con, puisque si on fait ça, on l'éteint. C'est d'un monsieur comme ça dont on aurait eu besoin hier soir.
Bon, le Rassemblement National a beau souffler sur la petite flamme, il n'a plus beaucoup d'argent.
Mais non, et c'est pourquoi Marine Le Pen vient de lancer un emprunt patriotique afin de récolter du brosouf. Alors le principe est simple, c'est comme si moi je vous demandais de me prêter de l'argent, Nagui, sauf qu'au lieu de répondre que dalle, tu crois quoi, je me suis fait tout seul moi. Et bien le particulier répond à Marine Le Pen, bien sûr, voici 20 euros. Et 20 plus 20 plus 20, au final ça fait beaucoup, en l'occurrence 60. En général, quand un parti demande de l'argent, c'est sous forme de dons. Mais là, le prêteur touchera des intérêts, 5% dans un an. 100 000 euros prêtés, il prendra 5 000. C'est mieux que la Française des Jeux. En plus, il n'a pas besoin de gratter Marine Le Pen avec une pièce de 2 euros et ça évite de répandre des peaux mortes partout. Et comme les intérêts que vont toucher les gens, le RN les a inclus dans ses frais de campagne, indirectement, c'est le contribuable qui finance le truc. Les mecs sont quand même forts. Jean Lassalle qui promettait à chaque personne qui lui faisait un don de boire un coup de gnôle avec elle dans le foin, il a eu 0. Alors mieux, je suis allé sur le site du RN. Je me renseigne parce que Radio Courtoisie est en train de me démarcher pour la saison prochaine. Show intitulé « Charles Martel, fleur de lys et sanglier des Ardennes ». Sur le site, il est dit que tout prêteur recevra une lettre de remerciement signée de Marine Le Pen. Bon, ça c'est nul, mais si on prête plus de 15 000 euros, on sera invité à un cocktail en présence de Marine Le Pen. L'occasion de la voir en soirée. Si ça se trouve, au bout de deux kirs, elle danse sur la table, Jordan Bardella finit en slip, Thierry Mariani se met hurler et c'est parti pour la soirée mousse. Et ceux qui prêtent plus de 50 000 euros à Marine Le Pen pourront, je lis le truc, la rencontrer lors d'un repas privé. Yes. Alors ensuite, c'est progressif. Plus de 100 000 euros, le directeur du restaurant éteint la lumière. Marine Le Pen, vous regardant dans les yeux, vous dit pour 50 000 de plus, je danse pour toi, bébé. Oh là. Et à partir de 500 000 euros de prêt, vous filez avec elle à Las Vegas, vous mariez face à un sosie d'Éric Zemmour, un ancien sosie d'Elvis, venant de perdre 17 kilos et tous ses cheveux. Donc si vous êtes seul, mais que vous avez plein d'argent, il y a une alternative à Tinder, Rassemblement National. C'est un peu plus connoté politique, mais au moins ça aboutit. Sinon, si vous avez du blé, y a une cathédrale qui a brûlé hier, vous pouvez donner. Moi, je veux pas voir Stéphane Bern en pleurs une deuxième fois. Je tiendrai pas, putain.
Et il s'en va.
Cool.
Grand seigneur.
Il a pas pris les applaudissements, il est parti avant.
Il est timide, Tanguy.
Très bien.
Mais
là, il part sur RTL.
Il en fait Radio Courtoisie.
Voilà.
Radio Courtoisie. Just Gigolo. C'est vrai que ça a été présenté comme une fable par Janine, qui était notre invitée tout à l'heure.
Elle est partie.
Vous le vivez comme ça, vous aussi?
C'est assez juste, c'est je trouve. Ouais.
C'est un
voyage initiatique. Enfin, c'est quelque... Il retourne dans ses origines pour les retrouver.
Il retourne dans sa famille, il retourne...
Effectivement, il y a quelque chose, des vases communicants.
Dans ce qu'elle dit est amusant, c'est vrai que ce personnage transforme finalement tous les gens qu'il fréquente finalement. Alors que lui, son intérêt dans la vie, c'est de retrouver une proie, une femme. Alors il va même se servir de son petit-neveu. Parce que le petit-neveu a une petite amie et cette petite amie a une grand-mère.
Ouais.
Et donc lui, ce qu'il veut, c'est rencontrer la grand-mère. Donc il va tout faire.
pour rencontrer la grand-mère. Donc de se servir de son, c'est complètement
c'est-à-dire que surtout,
c'est pathétique.
Il y a une scène formidable où le vieux gigolo va coacher le gamin pour lui dire je vais te dire comment il faut parler aux femmes et où il va parler à sa copine de sixième ou de cinquième, j'en sais rien, comme un vieux gigolo. Ah. C'est tellement drôle.
Et il se prend un vent en plus.
Tellement drôle. Ah, oui, c'est tellement drôle. Non, il y a vraiment des
il faut commander pour les femmes par exemple et voilà, c'est ouais. Ça c'est les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Voilà. Donc si elles demandent
elle.
Si elle demande un Sprite, en fait, elle sait pas du tout, non, mais non. Elle veut un Coca. Donc, il faut vraiment commander pour elle. Ça, c'est...
Non, mais il est à l'ancienne, lui. Hein. Il a encore les réflexes des années 70. Hein. Il accroche le regard des femmes. Ouais. Tu vois, une espèce de la démarche
Aldo Machon,
qu'évidemment, plus personne ne fait. Enfin,
qu'est-ce qu'il y a comme référence, d'ailleurs? On parle d'Aldo Machon, on parle du parrain aussi dans ce film. Vous aviez quoi en tête dans le... Il y a un petit côté quoi, Abraham Zucker.
Ah oui, de toute façon, il y a un côté quand même assez potache aussi. Hein, donc,
y a-t-il un pilote quoi.
Y a-t-il un pilote, ouais. Top Secret, évidemment.
Tout ça sont des trucs qu'ils ont toujours fait marrer.
Ah, mais depuis le début, les nuls, enfin, tout cet univers comme ça. Et puis, ce qu'on a fait avec Olivier pendant des années, et sur Comédie, et sur Canal, et à la radio notamment.
Alors, justement.
Une espèce de tordre de la réalité tout le temps, essayer d'aller chercher le.
Il n'y a pas eu un moment où vous dites le ridicule ne tue pas, mais quand même, il peut faire mal parce que franchement, le maillot de bain, vous êtes sûr?
Enfin, non, c'est drôle, je ne suis pas sûr, mais...
Et justement, on vous en offre un.
Oh, yeah. Non, mais le maillot de bain, c'est...
C'était pas la bonne taille, Cad.
Oui, c'était pas la bonne taille.
C'était pas la bonne taille.
Il a gardé le même, c'est tout.
Non, mais j'ai pas de problème avec ça, moi. Ouais. Franchement, je...
Non, mais c'est l'autodérision poussée à l'excès, quoi.
Ne pas avoir peur du ridicule, c'est le but de l'acteur. Si on a peur du ridicule, on n'est pas acteur. Parce que même quand on doit émouvoir ou faire pleurer, il faut donner beaucoup, et faire rire, c'est pareil, il faut donner.
À partir de situations dramatiques, donc mettre dans une situation qui pourrait faire pleurer, était conscient.
Bah oui, exactement. De toute façon, la comédie part toujours forcément de choses dramatiques. Là, on parle de la mort de leur père au début du film, qui va déclencher normalement les rires.
Et puis il y a une scène très belle entre vous deux où on voit que vous êtes très complices. C'est quand vous faites semblant d'être bourré, en fait, vous passez une soirée ensemble et vous vous retrouvez finalement.
On se retrouve et on chante ensemble. Ouais. Et ça, défoncé.
Ça, il la conseille quant à ses relations avec les hommes amoureuses. Et ils vont finir par prendre une cuite tous les deux, ouais.
Oui, c'est des moments presque de sincérité où on sent que là, ils se retrouvent, le frère et la sœur. Ils s'étaient perdus, ils se retrouvent autour d'une chanson. Voilà.
Vous êtes senti bien, Anne Charrier, intégré dans cette bande de Cadéo?
Ah oui. Ça, ils ont une générosité tous les deux. Moi, je connaissais bien Cad puisqu'on avait déjà fait deux films ensemble, notamment un qu'il réalisait, Marseille.
Marseille, oui.
Donc ça ne posait pas de problème. Et puis la complicité entre les deux, l'accueil, la générosité,
C'est pas une complicité excluante.
Non, pas du tout. Non. Et puis après, on est un peu, on s'exclut soi-même pour être spectateur, parce qu'il y a quand même
vous êtes
cliente.
Perles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça se passe au cinéma demain, donc Just Gigolo. Vous l'avez compris, une fable à la fois extrêmement drôle, mais extrêmement tendre aussi, humaine.
Une grande Anne Charrier quand même, futur Molière.
Il faut le dire.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore.
D'ailleurs, ils vont changer le prix. Ils vont l'appeler le prix Charrier.
Le Charrier. Ton Charrier.
J'ai rencontré Anne Charrier sur un tournage du film de Philippe Guillard. Je me souviens, on voulait tout casser. Et j'avais absolument voulu qu'elle soit l'héroïne de mon film Marseille. Et quand il s'agissait de trouver cette Salma Hayek, puisque dans le...
Exact.
J'ai proposé, c'est moi qui ai proposé Anne à Olivier.
Vous avez
producteur.
Vraiment été un moteur de Just Gigolo.
Ah, mais beaucoup. Et puis j'avais très envie d'Anne, parce que je savais qu'elle serait formidable. Et elle est formidable. Bah, voilà.
C'est
clair. Est toujours au service d'un personnage, toujours au service du rôle. Et c'est une très grande actrice.
On ne fait que plus. On plus soit.
Ouais,
c'est ça
on est d'accord, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça, on est d'accord. Vas-y, Daniel Morin.
Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que nous recevions Cad Merad et Anne Charrier. Oui, je suis heureux et même fier qu'à travers l'œuvre qu'ils viennent nous présenter, ils remettent à l'honneur une profession noble, empreinte de générosité et pourtant trop souvent déconsidérée. Au travers du film d'Olivier Barou, nous est en effet proposé un emploi décrié, pourtant si porteur de satisfaction et générateur de revenus qui permettent d'envisager un niveau de vie plus que confortable, le métier de gigolo. Quoi de plus beau, de plus généreux que le métier de gigolo? Car il ne suffit pas d'être un mâle équipé comme une pompe à essence et de pouvoir faire accepter à son bassin la surchauffe d'un emballement érotique et passionnel, accompagné de cris et de sueurs pour assurer le succès d'un rapport soutenu monnayable. Non. Il en est autour de cette table qui,
comme passe-temps n'ont d'autres ambitions que celles de satisfaire leurs besoins les plus vils et le plus souvent dans des conditions d'hygiène discutables. Eh bien, à tous ceux-là qui se disent que le métier de gigolo est fait pour eux, je dis non. Non, 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 les amis. La gigolerie, nom technique qui désigne l'exercice professionnel exercé par un gigolo, la gigolerie exige bien plus que ça. Un bon gigolo, c'est quoi ? Eh bien, c'est un homme qui est dans le partage, la transmission, l'empathie, le don de soi. On est loin de la figure égoïste de l'individu mi-homme, mi-bison, à la toison pectorale tropicale, aux fessiers saillants, à l'organe dru. Non, le bon gigolo est sympa, souriant, aimable, courtois, propre, compréhensif, à l'écoute, délicat, sauf quand bien sûr la cliente lui demande de devenir un autre. Quand elle lui demande de lâcher la bête qui sommeille en lui, et là, on a le choix entre plusieurs menus gigoliens. Gigolien étant le terme technique désignant une activité liée à l'art de la gigolerie. Car le métier de gigolo est un métier qui n'a pas qu'un seul profil. Non, les offres sont aussi multiples que les désirs qui nous habitent. Bonjour et bienvenue sur le site gigolo.com. Des centaines d'offres pour tous les goûts, pouvant satisfaire tous les budgets, mais avec comme point commun la qualité du service rendu. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter les profils de nos meilleures ventes. Pour celles ou ceux qui sont pris dans le grand tourbillon de la vie et pour qui tout va toujours plus vite, choisissez la formule Quickie Quickie. La formule Quickie Quickie, c'est un de nos lovers rompu à toutes les techniques de l'amour expresso, vite fait mais toujours bien fait. Aucune option n'est laissée de côté, c'est un panorama complet de l'amour, mais en moins de 5 minutes. Notre lover se place à domicile ou sur le lieu de travail. Autre best-of chez gigolo.com, si en ce moment vous vous sentez d'humeur nature et découverte, si vous vous sentez 5 fruits, 5 légumes par jour, vous vous sentez bio, si vous souhaitez que vos amours et vos épanchements le soient aussi, chez gigolo.com, nous vous conseillons le produit qu'il vous faut. Choisissez la formule Quinoa Fuck. La formule Quinoa Fuck, c'est l'amour à la mode de l'accouplement animal avec un de nos lovers élevé en plein air. Un homme un peu rustre mais vigoureux. Il est garanti non épilé, garanti forte odeur, avec un peu de terre sous les pieds. Il est à consommer au bord d'une rivière, dans une grange, au milieu d'un champ, sur une branche. Une expérience sexe et nature pour mieux goûter aux délices des plaisirs de saison. À noter que la verge de nos lovers, Quinoa Fuck, est garantie zéro glyphosate. Enfin, pour tous ceux et toutes celles qui voient dans l'amour physique un combat, ne passez pas à côté de notre formule humiliation et cicatrice. Vous ne serez pas déçus. Une fois le rendez-vous pris dans un donjon, une cave, un tunnel de métro ou un parking, vous serez attaché, ligoté et bâillonné par un de nos assistants. Puis viendra le moment tant attendu, celui où arrivera notre lover humiliation et cicatrice, un homme musclé à souhait, sans état d'âme, qui pendant plus de 3 heures vous giflera, vous bastonnera, vous tatanera, vous tambourinera sans la moindre pitié. Si vous suppliez sa clémence, oh mon Dieu, sa furie ne fera qu'empirer et là vous risquerez vraiment de perdre des membres. Pour arrêter la séance, il suffit de crier « Pitié, pitié, maître, je ne suis qu'un chien qui pue !» Ce qui n'est pas chose aisée quand vous aurez toutes les dents pétées. A noter que sur recommandation du ministère de la Santé, la formule humiliation et cicatrice ne doit pas être choisie plus d'une fois par mois. Voyez, il y en a pour tout le monde. Alors faites votre choix et vivez une expérience d'amour que vous n'oublierez jamais sur gigolo.com. Vive la gigolerie.
Merci.
La bande originale avec Nagui.
Demain au cinéma, on vous encourage à voir et à rire avec Just Gigolo, le nouveau film d'Olivier Barou, avec Anne Charrier et Kad Merad. Projet d'Anne, on sait qu'il y a les Molières qui vont arriver au mois de mai, c'est ça ?
Le 13 mai.
13 mai.
Et le 14 mai.
Un lundi soir. Et le 14, on sera tous dans une soirée avec Anne. Mais ça, on n'en parle pas, c'est à la radio.
Oui.
Vous êtes dans le Canard à l'Orange jusqu'à quand, le Canard à l'Orange ?
Jusqu'au 2 juin.
Formidable pièce.
Jusqu'au 2 juin à la Michaudière.
Avec Nicolas Briançon, François-Vincent Elly, Alice Dufour, Sophie Arthur et vous et les 7 nominations qui vont avec dans les 7 catégories de la meilleure mise en scène, comédien, comédienne, second rôle, enfin il y a tout, révélation féminine, meilleure comédie, la
meilleure
totale.
Comédie, ouais.
Au cinéma, vous reviendrez avec les Fouteuses, Kad Merad, c'est prévu pour...
Alors, je ne sais pas.
D'accord, très bien.
C'est prévu,
avec
mais...
Céline, avec Céline Salette et
oui, Alban. Oui, Alban Ivanov, Céline Salette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, ouais. Qui a eu le Molière l'année dernière,
ouais.
Qui t'a pris ton Molière l'année dernière, on peut le dire.
Elle va le rendre cette année.
Mais avant, je pars commencer la 3e saison de Baron Noir dans quelques semaines.
Parfait.
Ah. Ça, c'est la vraie...
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
On attend.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oh là 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 là, déjà désolé, bien sûr, pour la langue française qui a été abîmée, tambouriné, loukoumisé par Kad Merad avec le désormais cultissime « Ça va t'arriver ». C'est vrai que c'était violent, mais la vie est violente. Désolé pour Jessica Astier, la magnifique comédienne que Anne Charrier et Kad Merad ont méprisé, oui, en oubliant tout simplement son nom. C'est salaud, mais la vie est une belle saloperie. Désolé enfin pour Anne Charrier, en régie, on n'a pas respecté la playlist de sa vie. Rectifions le tir. Eh oui, Sardou, c'est vrai, Sardou, ça pique, mais la vie aussi, ça pique, les amis.
Demain, c'est Hippolyte Girardot qui sera notre invité. Merci Anne Charrier.
Merci, et merci à vous.
Merci beaucoup.
Tout de suite, on est en retard. Pardon, les carnets de campagne. Philippe Berthier. Ouais,
salut les amis, merci. J'irai jusqu'à 12h28 et puis après...
T'as vu l'heure.
Là, je suis dans la mouise.
Allez, courage.
Bon, allez, à bientôt.
Oui.
Allez.
Ciao.